gosse, repasser mes vêtements, j'ai rasé ma moustache, fait briller toutes mes dents, j'ai fait disparaître la crosse, j'ai même sorti une gant, je me suis regardé dans la glace, j'étais beau comme avant, mais... C'est les traces de mes ex de y a 10 ans. J'ai mis ma tire à la casse, je nous ouais un ravant. J'ai remplacé le putain de sa race par le oh c'est ennuyant. J'ai presque cru que j'étais trop classe, ouais, j'ai pas fait semblant. Mais décevant, tu m'as regardé et tu m'as dit décevant. Oh décevant, j'aurais aimé juste une fois être autre chose que décevant. J'aurais dû me laisser vivre et c'est les larmes pour le pire. Me laisser vivre, me dire que j'aurais pu être pire. Me laisser vivre, assumant mes contradictions. Me laisser, 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 laisser. J'ai sorti de la paperasse, j'ai écrit un roman. J'ai changé le scellé de face, j'ai mis Jean-Jacques Goldman. J'ai rangé ma carcasse, mis mes muscles en avant. J'ai même acheté une glace et un pot de fromage blanc. Mais... en strass avec des petits cœurs de vent, je t'ai aménagé ton espace. Ici on peut vivre à de là-dedans, je me suis inspiré de la grâce. Voilà salade au parmesan, je t'ai même dit que t'étais unique, sans vouloir être médisant. Mais décevant, tu m'as regardé et tu m'as dit décevant. Décevant, j'aurais aimé juste une fois être autre chose que décevant. J'aurais dû me laisser vivre, laisser les larmes pour le pire. Me laisser vivre, me dire que j'aurais pu être pire. Me laisser vivre, assumant mes contradictions. Me laisser, 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 laisser. Donc nous sommes sur Radio Libertaire 89.4. Aujourd'hui, nous allons parler des licences libres. Donc c'est un vaste programme. Mais donc avant ça, je dois vous rappeler, enfin vous inviter à adhérer à l'association des amis de Radio Libertaire, puisque vous le savez, il y a quelques problèmes de financement qui s'annoncent à l'horizon. Donc voilà, vous pouvez trouver des infos sur le site de Radio Libertaire. Avant de parler des licences libres, je pense qu'il serait intéressant de faire un petit tour d'horizon de ce qui a pu se passer ces derniers temps dans le monde du libre. Enfin, on a notre troisième émission maintenant. On avait parlé de la loi d'Avsy, par exemple, et il s'est passé quelques événements autour de ça, notamment un décret qui était sorti. Peut-être que Jérémy, qui est avec nous, va commencer par se présenter et éventuellement nous en parler.
Bonjour à tous, je suis Jérémy Zimmermann, administrateur de l'April, association de promotion et défense des logiciels libres. Oui, effectivement, l'actualité du DATSI, je ne m'attendais pas à ce qu'on on démarre en trombe comme ça. Sur... Oui, eh bien, l'association que je représente ici, April, vient de déposer une plainte au Conseil d'État contre le premier décret qui est sorti sur la loi DATSI. Alors, ça va être difficile d'en parler plus que ça, sans entrer dans les détails un peu techniques, mais vous savez que cette loi DATSI concerne les mesures techniques, dites de protection, en fait les dispositifs anti-copie, les verrous numériques que l'on peut trouver sur les œuvres, qu'elles soient musicales ou vidéo. Et ce premier décret qui était paru concernait l'interdiction de tout contournement de ces dispositifs anti-copie. Et donc nous, on a rendu notre copie au Conseil d'État pour lui expliquer que selon nous, cette interdiction totale, sans exception, était nuisible pour le logiciel libre. Car en logiciel libre, on ne peut pas contrôler les usages des gens, on ne peut pas contrôler la façon dont les gens utiliseront leur ordinateur. Donc on peut pas leur interdire de façon absolue la copie. Et donc dire qu'on n'a pas le droit de contourner ces dispositifs anti-copie interdit à des logiciels libres d'accéder aux œuvres qui seraient protégées comme ça. Donc on a déposé cette plainte et on attend. Je pense que on a de très nombreux mois devant nous avant d'avoir un embryon de réponse.
Donc alors, j'ai vu également qu'il y a une circulaire qui est passée du côté du ministère de la Justice.
Ah oui. Bon. Ah, je vois que tu es très au courant de l'actualité, effectivement. Alors bon, ça ce serait anecdotique si c'était pas aussi si préoccupant. C'est oui une circulaire qui vient du ministre de la Justice pour expliquer aux juges comment appliquer la loi d'ATSI. Et ce serait juste drôle si ça venait pas du ministère, mais en fait, le vocabulaire qui est habituellement celui des lobbyistes des industries culturelles transpire à chaque phrase, à chaque virgule. Et le ministre de la Justice explique aux juges que pour des raisons économiques qui sont celles de l'amortissement des ventes des DVD, des films qui coûtent très cher à produire, etc., il y a les vilains pirates de l'Internet et que c'est pas bien. Le ministre de la Justice dit aux juges qu'en cas de téléchargement, l'exception pour copie privée ne saurait être retenue. Point. C'est-à-dire, on n'explique pas pourquoi, comment, mais on dit juste, voilà, cette exception au droit d'auteur qui existe dans le droit d'auteur, vous la retiendrez pas. Et des choses comme ça qui sont assez rock and roll. En même temps, je ne sais pas quel crédit accordent les magistrats à Pascal Clément en tant que ministre de la Justice. Donc peut-être qu'avec un peu de chance.
Parce que j'avais lu ça dans Les Échos et le journal semblait prendre cette circulaire un petit peu comme une catastrophe en disant que ça allait de fait dépénaliser le truc et.
Oh. Alors, ce qui les a peut-être effrayés là-dedans, c'est qu'effectivement étaient précisés plusieurs types de sanctions. Supposément adapté en fonction de l'intensité du délit commis par un affreux pirate de l'Internet. S'il avait juste téléchargé, ou téléchargé et un peu mis à disposition, ou téléchargé et beaucoup mis à disposition, comme un affreux terroriste, la circulaire prévoyait des sanctions différentes. Maintenant, je crois savoir que les magistrats sont censés être un petit peu indépendants, et j'ai aucune idée du degré de d'applications qui mettent à mettre en œuvre ce genre de circulaire.
Si je peux me permettre, il me semble que cette circulaire remettait en circulation la mesure de la riposte graduée qui avait été, plus ou moins, qui avait été écartée par le Conseil constitutionnel. Et là, ça le réintroduit d'une certaine façon. En introduisant beaucoup de contradictions internes, donc beaucoup d'insécurité juridique, parce que une des recommandations de cette circulaire, me semble-t-il, c'était que, si quelqu'un télécharge et par mégarde met à disposition un fichier dans l'acte de téléchargement, il n'est pas passible, son acte n'est pas considéré comme répréhensible. Donc finalement, à demi-mot, c'est l'échange, de base en peer-to-peer qui est autorisé. Mais à demi-mot, c'est ça qui est très ambigu et ça met ça crée une sorte de malaise parce qu'on ne sait plus à quoi s'en tenir.
D'accord.
Enfin, c'est ce qui me semble avoir compris.
Oui.
Dans.
Alors, j'ai fait les choses un petit peu à l'envers. C'était Isabelle Vajani qui s'exprimait. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, alors Isabelle Vajani, voilà. Comment dois-je me présenter? Je suis artiste, je suis plasticienne. Je suis maître de conférence en art plastique, parisien. Et je suis membre de Copyleft Attitude, co-rédactrice avec Antoine Moreau, Mélanie Clément-Fontaine, de la licence Art Libre. Voilà.
D'accord, on verra ça dans le détail tout à l'heure. Donc pour continuer la présentation, ce par quoi j'aurais dû commencer, honte à moi. Donc Mélanie Clément-Fontaine.
Oui, donc je suis docteur en droit, j'ai écrit une thèse que j'ai soutenue récemment sur les œuvres libres. Je fais partie d'une équipe de recherche et création immatérielle de Montpellier. Et voilà, et donc je m'intéresse de près à tout ce qui est diffusion libre de la création au sens large, donc logiciel ou art plastique.
Et en dernier lieu, on a Sam,
ouais,
qui est musicien.
Dans, pour le coup, là, oui, oui. Musicien dit libre, et puis musicien aussi avant tout, quoi. Donc je fais de la musique libre depuis presque toujours, vu que je mets à disposition mes titres sur Internet. Puis je suis invité ici en tant que, disons, représentant, entre guillemets, des musiciens libres de la plateforme Dogmazic, je crois. Parce que j'ai compris, en tout cas, de différentes plateformes qui diffusent du libre. Voilà.
Ok. Donc on était parti, je m'étais un peu en vrac, pour venir parler un petit peu de... faire un petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent intéressantes dans les derniers événements à évoquer?
Oh bah, y a là, le scoop autour des DRM qui a fait quand même pas ma faute. Jérémy saurait mieux en parler.
Oui, il y a le revirement d'Apple
l'obsolescence des DRM alors qu'on vient tout juste de légiférer là-dessus, c'est quand même assez...
En même temps, ça faisait
on s'y attendait, oui.
Ça faisait un certain nombre d'années qu'on était pas mal à dire que ça tenait pas la route, cette histoire de DRM qui sont ces fameux verrous numériques à poser sur les œuvres. Disponible sur les supermarchés de l'internet des industries culturelles, ces verrous numériques sont pas viables pour tout un tas de raisons, qu'elles soient économiques ou techniques et juridiques. C'est un petit peu rock'n'roll aussi. L'histoire de Steve Jobs, donc le président d'Apple, qui dit subitement dans une lettre ouverte, oui, en fait, les DRM, c'est pas bien, mais nous, on nous a forcés, parce que nous, c'est pas de notre faute, vous comprenez, c'est les majors du disque, et nous, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait tout de suite. C'est emblématique, mais c'est la continuité d'une longue série d'indices, en fait, comme autant de trous dans la coque du bateau des DRM qui commencent à sacrément prendre l'eau, ne serait-ce que EMI, une des quatre majors, qui était la plus portée sur les DRM, qui commence à dire, ouais, on réfléchit en interne pour savoir si on va pas les supprimer. Bill Gates qui dit, ouais, nos DRM, en fait, ils marchent pas bien, faudra trouver autre chose. De plus en plus de musiciens et de labels qui disent, voilà, tout ça n'est qu'une vaste fumisterie. C'est un petit peu... On sent que Steve Jobs, sentant le vent tourner, étant le plus gros vendeur de DRM de la planète, avec sa plateforme, on va pas faire de publicité, mais le machin Pod et le machin Tunes, qui sont quand même un sacré bel exemple de comment ces verrous numériques peuvent servir à faire de la vente liée, et à restreindre la concurrence et à empêcher les gens de changer de matériel une fois qu'ils ont mis le pied dans un système qui maintenant se fait l'apôtre du nom DRM. C'est quand même grâce à ça qu'il a pu vendre tous ces millions d'appareils et maintenant endosser l'armure du cavalier blanc avant de quitter le navire. C'est satisfaisant, mais pour autant il faut pas, à mon avis, il ne faut pas baisser la garde parce que si dans les mois qui viennent on va nous dire ah oui, ben en fait voilà, en fait les amis, on s'est trompé, les DRM on arrête, tout le monde est gentil, bienvenue dans le pays des bisounours, c'est pas pour autant que tous les industriels vont du jour au lendemain oublier leur volonté de contrôle et qu'il n'y a pas la technologie d'après qui s'appellera peut-être le broadcast flag sur les contenus diffusés par Internet, qui sera peut-être le trusted computing, l'informatique dite de confiance, qui est censée verrouiller tout ce que vous pouvez faire sur votre ordinateur, et même quel programme vous avez le droit ou pas le droit de lancer, etc. etc. Donc peut-être qu'aussi ils préparent un coup d'éclat en disant « Ouhou, les DRM, c'est terminé, mais continuez d'acheter nos trucs pour que l'innovation technologique, entre guillemets, d'après... » puissent continuer de leur permettre de contrôler les marchés.
D'accord. Et en dernier lieu, on a quelque chose là, plus spécifiquement français, sur... j'ai vu ça, une histoire de bon, je ne sais pas exactement juridiquement ce que c'est, mais d'idée de contrôler la diffusion d'images... Sous couvert de protection de l'enfance, ce genre de choses.
Ça c'est le projet de décret sur... la déontologie de l'Internet.
Ouais,
c'est vrai qu'il faut être très vigilant là-dessus parce que ça paraît être quelque chose comme ça d'assez inoffensif. Et puis en même temps, on s'aperçoit que derrière ça, il y a des techniques de filtrage qui sont proposés pour l'instant aux parents, qui sont déjà effectifs. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on achète un téléphone mobile pour son enfant, le marchand vous montre où est-ce qu'on peut activer la procédure de filtrage pour que votre enfant ne puisse pas accéder à des données sensibles, etc. Et la même chose maintenant est en train de se mettre donc sur Internet, toujours pour la protection de l'enfance. Alors c'est vrai que ça reste facultatif, au sens où c'est les parents qui décident d'activer ou de ne pas activer cette procédure de filtrage. Mais il y a tout un attirail autour de ça qui consiste d'abord à créer une commission qui est nommée par le gouvernement, complètement contrôlée par le gouvernement, qui va donner des labels, qui va attribuer des labels. Alors d'abord, il y a le label famille qui va dire, voilà, ça c'est des produits culturels qui sont bien pour les enfants et ça c'est pas bien pour les enfants, etc. Et puis il est bien sûr question que cette commission puisse créer d'autres labels, des labels presse, des labels sécurité consommateur, des tas de labels possibles et imaginables. Or tant qu'on reste sur une labellisation, déjà ça commence à devenir très discutable, parce que il va y avoir des sites internet qui font beaucoup de travail d'information, par exemple, qui vont se voir attribuer ou pas le label presse. Donc ça veut dire que s'ils ne se font pas attribuer le label presse, ça veut dire qu'ils ne sont pas dignes de confiance, qu'ils vont être un peu discrédités. Donc ça pose déjà sur le plan déontologique des quantités de problèmes, parce qu'il s'agit finalement de dire que c'est le gouvernement qui dit qu'est-ce qui est digne de confiance ou non. Et puis les internautes, eux, n'ont pas assez de jugeote pour juger par eux-mêmes, pour faire des recoupements d'infos, pour avoir des capacités de discernement. Donc c'est quand même assez inquiétant. Et puis le fait que ces choses-là puissent être éventuellement comme ça, comme pour le label famille, assorti de dispositifs de filtrage plus ou moins fortement recommandés, etc. Ça aussi, c'est un peu la porte ouverte à beaucoup à de futures dérives. Donc, faut avoir l'œil dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy.
pour expliquer peut-être un petit peu à nos auditeurs la genèse même de cette histoire de commission. En fait, c'est un décret qui a filtré sur Internet, qui était en cours de rédaction et qui concernait justement la création d'une commission de déontologie de l'Internet. Et alors, comme tu le disais bien, Isabelle, sous couvert de protection de l'enfance, et même au début de protection de l'enfance sur les contenus mobiles, donc exclusivement pour les téléphones, le ministre de la Famille, Philippe Bas, disant, voilà, il faut protéger les petits enfants de tous ces pédonazis de l'Internet, et donc on va créer cette commission. Et le décret a filtré sur Internet, et dans lequel on a pu comprendre le fonctionnement de la dite commission. Et donc le principe, c'est effectivement d'édicter des recommandations de déontologie. Là où ça commence à sentir le roussi, c'est que dans le texte du décret est écrit des recommandations dans des domaines tels que la protection de l'enfance, virgule, la propriété intellectuelle, virgule, x, y, virgule. Tel que, ça veut dire que la liste est non exhaustive. Et ça veut dire que la commission pourrait toucher à tous les domaines, potentiellement. Donc on dit, oui, c'est pour protéger les petits enfants des pédonazis. Et en réalité, on pourrait donner beaucoup plus de pouvoir à une telle commission. Et là où ça devient encore plus pernicieux, encore plus dangereux, c'est que le mécanisme prévu, c'est même pas de la soft law, c'est carrément une pression commerciale, administrative. Cette administration, donc, d'un côté, fait des recommandations de déontologie en disant, par exemple, comme tu disais, Isabelle, afin de protéger les petits enfants, on va filtrer tel et tel et tel site pour pas qu'ils soient accessibles. Et de l'autre côté, accorde des labels comme respecte telle recommandation, respecte la famille, respecte les petits-enfants, comme tu disais, mais avec en plus, déjà ça, en soi, ça, c'est un premier moyen de pression, parce que imaginez un opérateur XY qui obtient le label et un autre opérateur qui se dit bah non, moi je vais pas filtrer le site de Indie Media ou de ceci ou de cela parce qu'on nous dit que ça protège pas les petits enfants. Commercialement, l'éditeur XY va dire ah, moi j'ai le label et les autres ils pourront pas se prévaloir de ça. Mais encore, en plus de ça, seuls les opérateurs qui auront le label pourront bénéficier d'exonérations fiscales et de voilà d'exonérations.
C'est plutôt ça qui est gênant parce que je vais me faire un peu je pense que le fait de labelliser créer une commission de réflexion là-dessus sur des mesures déontologiques c'est ce qu'on fait généralement, c'est ce qui fait avancer la réflexion et c'est je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Après que ça débouche sur des exonérations fiscales pour certains et pas pour d'autres, là oui. Là,
déjà que l'on instrumentalise la protection de l'enfance pour laisser une porte ouverte aux lobbies des industries culturelles.
Non, bah, je pense que c'est un peu, ça allait un peu vite dans l'interprétation du
ministre de la Famille qui crée une commission dont on s'aperçoit dans un texte qu'elle va parler de propriété intellectuelle.
Parce que la propriété intellectuelle, ce sont des ouvrages pour les enfants, ce sont des films pour les enfants. C'est voilà, donc forcément, voilà, je crois qu'il faut aussi. Oui, non, c'est pas tiré par les cheveux. Je suis désolée. La propriété intellectuelle, ça couvre des productions intellectuelles qui sont à destination des enfants.
C'est pas les enfants qu'on protège quand on protège les œuvres d'éditeurs d'œuvres pour enfants. Non, c'est plus de la protection de l'enfance.
On protège les enfants contre des productions qui pourraient soi-disant être à l'intention des enfants, mais qui seraient nuisibles aux enfants ou qui voilà, c'est simplement, je sais pas, tu détournes une histoire du petit chaperon rouge et qui en fait devient complètement.
Mais donc ça, c'est, voilà, mais ça c'est de la protection de l'enfance. Oui. Quand on dit tel que la protection de l'enfance, virgule la propriété intellectuelle, on considère que la propriété intellectuelle est autre chose que la protection
d'en faire,
de l'enfance.
Mais avant de faire procès parler, hein. De la commission, il faudrait quand même regarder exactement ce qu'elle fait.
Bah, comme Isabelle l'a dit, il faut garder un œil dessus.
Bon, exactement. Voilà, je suis d'accord là-dessus. Après, pas faire un procès.
C'est pas un procès d'intention, mais quand on voit quelque chose qui pourrait être important est créé par décret un petit peu en douce, qu'ensuite on annonce protection de l'enfance et qu'après il y a apparemment plus de missions que ça, que ça permet de mettre des pressions commerciales sur les opérateurs, et en plus que les 7 membres qui y siégeront sont a priori nommés au travers d'un double filtre politique, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de s'inquiéter.
C'est-à-dire qu'il faut être très vigilant parce que quand on voit comment ça se passe dans des pays qui filtrent pas mal, moi j'en connais.
Reporters sans frontières.
On s'aperçoit que effectivement les choses avancent à petits pas de cette façon-là. Moi je suis binationale, je viens aussi d'un pays qui filtre beaucoup l'internet, peut-être un peu moins qu'en Chine, mais beaucoup. Et ça se fait de cette façon-là, c'est-à-dire et c'est ça se fait avec beaucoup de débats publics. Ça a l'air très démocratique tout ça. Ça se fait avec beaucoup de débats publics, mais c'est chaque jour des petites mesures. Un jour, le gouvernement va décréter que il y a un certain nombre de sites d'information qui ont le droit de publier des dépêches de presse venant des ministères, etc. Et d'autres qui n'ont pas le droit de le faire. Voilà, qui donne donc accès en première main aux dépêches de presse venant du gouvernement, des ministères et tout. Et puis à d'autres, non. Alors, il ne les filtre pas tous, il ne les censure pas tous. Mais il dit, voilà, ceux-là ont le droit de publier nos dépêches et ceux-là n'ont pas le droit de publier nos dépêches. Après, quelques mois plus tard, ils vont faire un grand débat avec le Parlement, tout ça. Et puis, ils vont décider qu'il n'est plus permis de dans la presse en ligne de commenter des dépêches de presse venues de l'étranger. Alors on a le droit de les consulter mais pas de les commenter et d'écrire des articles qui commentent ces dépêches-là. Et ça va être quelque chose qui est interdit à certains sites et pas d'autres, parce que les journaux très officiels le font.
Hein? Ça, on n'y est pas encore.
Alors, on n'en est pas encore là, mais je vais dire que c'est vraiment des petits trucs qui se font en grappillant. Enfin, quand on voit comment ça se fait dans d'autres pays, ça se fait en grappillant des petits trucs. Ça se fait sur la base de grandes discussions sur les modalités techniques du filtrage, avec quels mots-clés vous avez fait ça, avec quel logiciel.
On fera une émission là-dessus. pense, parce que manifestement,
faire, faut
il
faire
y a
attention.
Des avis,
il faut faire
des
attention.
Avis divergents.
On n'est jamais à l'abri, ouais, on oui. se croit très à l'abri de. On croit que ces choses-là sont réservées aux autres pays barbares
Pour clore le sujet, il y a quand même un communiqué de Reporters sans frontières qui dit on voudrait instaurer un régime à la chinoise, on ne s'y prendrait pas autrement.
D'accord. Bon.
Oui, c'est RSF qui dit ça. Oui.
D'accord. On reviendra dessus, parce que manifestement, ça fait débat, donc c'est intéressant. Et on va attaquer, après cette longue passage en revue des événements, un peu le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de parler des licences libres, hein, ce qu'on appelle licences libres ou copyleft, ou je ne sais pas, on explicite un petit peu ces différents vocabulaires. Et là-dessus, Mélanie est la mieux placée pour, je pense, pour nous parler un petit peu de ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'une licence libre, quels sont les principes généraux qui...
Alors, il n'y a pas... Le vocabulaire est... pas encore figé dans le sens où il n'y a pas un vocabulaire officiel. Il y a des expressions effectivement qui ont été employées, qui ont été même créées par certains mouvements. Alors copyleft a été créé par le mouvement qui a été initié par Richard Stallman et le développement du projet GNU. Donc il l'a défini, il dit voilà, moi pour copyleft, les principes qui régissent ce système-là consistent à permettre à quiconque de copier, diffuser, modifier le logiciel et surtout de quand on offre comme ça son logiciel à autrui afin que les autres puissent en jouir, eh bien quand eux-mêmes vont contribuer au développement de ce logiciel, dès lors qu'ils veulent le communiquer également, eh bien ils le communiquent avec les mêmes libertés. Donc en fait, on a un système de liberté pérenne qui a pour résultat de créer un fonds dans lequel les gens vont mettre de la production intellectuelle, là, c'est du logiciel, et sur lequel personne ne peut se réserver l'exclusivité de l'usage. Donc c'est vraiment des logiciels à l'usage de tous. Donc on a, plus ils se développent, et plus le fond grossit, et plus la jouissance est large sur une masse de production intellectuelle. Donc c'est le système du copyleft. Après, on a utilisé, pour organiser ça, eh bien on a eu recours à des licences, qui explicitait en fait la démarche du créateur et qui expliquait en quoi consistaient ces libertés de copier, diffuser et modifier, et surtout de la garantie que ces libertés perdurent au fil des modifications du logiciel. Donc ces licences ont été dites licences libres. Alors le terme, on le sait, vient de free en anglais et libre au sens vraiment liberté d'utilisation et pas au sens free, au sens gratuit, puisque ça c'était pas ce qui caractérisait finalement ce type de diffusion. Et ensuite il y a d'autres licences qui ont été créées ensuite ou en même temps qui n'ont pas forcément tout à fait la même démarche. Et souvent, on retrouve par contre la liberté de copier, diffuser et modifier, mais on ne va pas retrouver cette exigence de faire perdurer la liberté au fil des modifications qui vont être apportées par autrui. Si bien qu'une personne peut très bien bénéficier de ces libertés-là, créer à partir du logiciel qui lui est proposé librement un nouveau logiciel et décider de ne pas conférer les mêmes libertés. Donc ça, c'est la licence BSD, par exemple, qui ne garantit pas que en fait ces libertés vont perdurer au fil des modifications qui seront faites sur le logiciel. Donc là déjà on a une première divergence en fait entre une approche liberté pérenne et une approche de liberté plus instantanée qui peut qui perdure ou pas, mais on n'en sait rien, sans garantie. Et puis ensuite, eh bien, les licences libres, ça a eu un effet au début qui a fait sourire. Et puis ensuite, on s'est aperçu que ça avait un bel effet marketing. On s'est dit qu'en fait, du libre, on a tout de suite un capital sympathie intéressant. Et donc, on a utilisé ce terme assez large. Et maintenant, on a tendance à l'utiliser pour des licences qui vont permettre simplement la copie. ou simplement la copie et la diffusion, mais pas la modification. Or, ce qui faisait quand même l'intérêt de ce système-là, c'était, pour une fois, la création restait pas figée. Elle était initiée par quelqu'un, et puis ensuite, elle était développée par l'intervention de tous, parce que tout le monde avait la liberté de modifier l'œuvre. Et là, ben, on parle quelquefois de licences libres pour des licences qui ne permettent pas la modification. Donc ensuite, il y a effectivement des associations telles qu'April qui ont été très vigilantes à ce qu'on emploie bien les termes pour désigner simplement les licences qui vont vraiment permettre la copie, la diffusion et la modification, et qu'on utilise d'autres expressions quand c'est simplement liberté de diffusion ou liberté de copie.
Oui, je crois savoir qu'il y a quand même des gens qui, même s'ils n'ont pas le, comment dire, ne donnent pas le droit de modifier ou faire une exploitation commerciale, se revendiquent quand même de
tout
libre.
Tout à fait.
Etc.
Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, il y a une quand on parle de licence libre, c'est un peu, on ne sait plus trop de quoi on parle puisque je vous dis, ça a un effet, c'est les gens vont utiliser ce terme parce que tout de suite, ça a un effet, un capital sympathie énorme. C'est-à-dire quand on dit « je diffuse de la musique libre », on se dit « il est sympathique, il est forcément, c'est bien, il aime les musiciens, il n'y a pas de souci ». Non, mais voilà.
Moi, c'est ça.
Et on s'aperçoit que quand on regarde un petit peu de près, que c'est pas si évident que ça, qu'il n'y a pas, forcément, une démarche de partage. De partage de la
démarche, ouais, la démarche, disons, du musicien libre, elle va pas on va pas la voir simplement parce qu'il a posé le sigle licence art libre ou Creative Commons à côté de sa musique. C'est plutôt dans tout le reste, dans les concerts, dans la musique, dans le discours qu'il a sur sa musique, qu'on va voir, entre guillemets, s'il est libre ou pas, quoi. Ensuite, c'était pour revenir, parce que c'est une des dernières questions après, mais faut pas simplement confondre ou mélanger d'un coup le logiciel et le domaine artistique.
Pour moi, c'est deux choses très différentes. J'étais sur les principes.
Mais c'est juste
parce qu'effectivement, au départ, ce sont des licences qui ont été créées pour le logiciel.
Pour le logiciel et qui après.
Et aujourd'hui, qui ont été transposées dans d'autres domaines. Donc, vous avez la licence art libre. Vous avez la licence contenu.
On va les voir dans le détail.
Voilà, le document libre.
Justement, moi, pour clarifier un petit peu cette différence, j'aurais voulu revenir une petite seconde faire moi aussi ma toute petite introduction sur la genèse de ce mouvement. En fait, quand en 1984, Richard Stallman est venu à conceptualiser le principe des logiciels libres, c'est tout simplement en partant du constat que les technologies, enfin que l'on appelle aujourd'hui technologies numériques, pouvaient aussi bien émanciper les gens que permettre de les contrôler. Et en l'occurrence, il s'est retrouvé devant des appareils fermés dont il n'avait pas le droit de comprendre leur fonctionnement et qui posaient des soucis. Et donc il s'est aperçu quand on restreint ces technologies numériques, on enferme les gens. Et donc c'est avant tout d'un point de vue social, c'est avant tout un projet de société qui a été en fait mis en œuvre dans le projet GNU de la Free Software Foundation. Et il faut garder ça à l'esprit quand on parle de la liberté des logiciels libres. Richard Stallman décrit son mouvement en trois mots quand il s'adresse dans un français parfait à un auditoire français. C'est liberté, égalité, fraternité. Les logiciels libres, liberté parce que tout le monde peut bénéficier des quatre libertés fondamentales qui sont d'utiliser le programme, de copier le programme, de modifier le programme et de redistribuer ses modifications. Égalité parce qu'il n'y a aucune distinction entre qui a le droit de le faire et qui n'a pas le droit de le faire. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Et fraternité, parce que ce mécanisme incite à partager, incite à faire avancer les choses. Donc ça, c'est le sens du libre avec un L majuscule, si j'ose dire, lorsque l'on parle de licence libre. Ensuite, ce concept a été décliné à autre chose que des logiciels, et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Au fur et à mesure que les technologies numériques ont concerné de plus en plus de pans de notre société, ces outils qui n'étaient que des outils d'informaticiens au début des années 84, et qui sont aujourd'hui entre les mains de tout musicien, photographe, vidéaste possible, ce concept de liberté a été étendu à d'autres domaines. Et si j'ai bien compris, c'est donc le sujet de notre émission aujourd'hui. Ce concept de liberté, avec un grand L, des logiciels libres, appliqué à autre chose que les logiciels. Alors moi, ce que je voulais juste proposer par rapport à ce que tu disais, Mélanie, et tu vas me dire si juridiquement c'est acceptable ou pas, lorsque l'on parle d'une licence qui n'accorde pas ces quatre libertés fondamentales, une licence qui dit, voilà, vous avez le droit de copier autant que vous voulez, mais pas de modifier, est-ce qu'on peut par exemple parler de licence en libre diffusion ?
Ouais, c'est, y a rien juridiquement qui est contraint, puisqu'il n'y a pas de vocabulaire juridique entériné aujourd'hui.
Donc, entre nous.
Moi, je suis pour, quand on permet juste la diffusion, de parler de libre diffusion, d'accord, de licence de libre copie quand il n'y a que la copie, et de d'accord, licence libre quand effectivement il y a toutes les copies. Et ensuite, quand on parle de licence libre, distinguer entre les licences qui créent une liberté pérenne et celles qui ne le font pas. Donc les licences copyleft et des autres. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on veut essayer de poser un petit peu ces distinctions-là, mais on sent que c'est pas voulu en face, parce que le flou, je pense, bénéficie aux éditeurs, hein, pas aux auteurs, aux éditeurs.
Mmh. Isabelle, des choses à ajouter là-dessus?
Là, peut-être qu'on peut aborder la question de la transposition des principes des licences libres dans le domaine artistique, parce que c'est peut-être le moment de le faire.
Éventuellement, on creuse un petit peu du côté un peu juridique, déjà pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une licence, très concrètement. Enfin, moi, j'ai une culture juridique assez lamentable.
Alors ça, c'est Mélanie qui est bien placée pour répondre, parce qu'elle va le faire.
Il y avait un grand débat, parce que derrière ce mouvement-là, il y a deux dimensions. Il y a la dimension, effectivement, de société qui va très, très loin, en disant c'est aussi penser autrement la propriété intellectuelle. Et même ce terme de propriété intellectuelle est déjà critiqué, parce qu'il emploie ce terme de propriété, donc qui renvoie à propriété individualiste, etc.
Exclusive.
Donc, repenser le droit. Et éventuellement proposer une alternative au droit d'auteur. Donc ça pourrait être le copyleft, la gauche d'auteur. Donc voilà. Donc là, ça va très loin. C'est vraiment un courant de pensée qui a ses défenseurs. Et puis il y a en deçà une idée que finalement on a un droit qui protège. Alors en France, qui protège l'auteur. Et on pourrait reconnaître à cet auteur l'autonomie finalement de la liberté de partager sa création, en disant finalement, on avait pensé la création figée, c'est-à-dire que quand un auteur il est seul, c'est le principe, hein, les exceptions c'est les œuvres collectives, œuvres de collaboration, mais c'est vraiment des cas très très particuliers de la création. Mais le principe en droit d'auteur, c'est une œuvre créée par une personne et qui est divulguée, donc communiquée au public, et qui doit rester en l'état. D'où sa protection par le droit moral, et notamment la protection contre toute atteinte à l'intégrité de l'œuvre, que ça soit physique ou intégrité intellectuelle de l'œuvre. Donc on a vraiment cette pensée figée, individualiste de la création. Et là, avec la création libre, eh bien, on est en train de bousculer cette conception développée au cours de, qui s'est affirmée au cours du 19e siècle. Et puisque là, on a une œuvre, l'auteur a envie que les autres viennent la faire évoluer, bouger. Elle n'est jamais figée en sa forme, et elle ne cesse de continuer son mouvement, sa démarche créative, donc, et avec une communauté, puisqu'on n'a pas, en plus, on n'a pas des auteurs identifiés en amont, mais des personnes qui vont intervenir spontanément au fur et à mesure du temps. Et donc, voilà, on a une communauté de personnes qui vont intervenir sur une œuvre en perpétuelle évolution. Donc, vous voyez bien qu'il y a là un nouveau modèle de création qui rentre complètement en affrontement avec la conception qu'on avait de la protection de la création. Donc il faut repenser la notion de création telle que protégée par le droit d'auteur. Il faut repenser la notion, la place de l'auteur. C'est plus l'auteur seul face à sa création, c'est autre chose. Donc ça, et forcément, quand on a voulu protéger cette démarche libre par le droit d'auteur, eh bien ça coince à certains endroits, et notamment ça coince par rapport au droit moral. Parce que le droit moral était là pour permettre que l'œuvre reste figée. Or là, au contraire, l'auteur ne veut pas que son œuvre reste figée. Or, pour protéger l'auteur, on lui avait dit que s'il s'engageait à renoncer à son droit moral, eh bien, c'était pas grave parce que ça valait rien. Il ne pouvait pas renoncer à son droit moral, il pouvait pas. Donc on pouvait lui faire signer n'importe quoi, c'était pas grave, il restait protégé. Or, du coup, aujourd'hui, s'il veut le faire, il ne peut pas le faire valablement. En tout cas, il ne peut pas garantir qu'il ne reviendrait pas dessus. Donc les autres en face qui vont pouvoir bénéficier de ces libertés ne savent pas si un jour ou l'autre, cet auteur va faire un volte-face et revenir sur sa décision, parce que juridiquement, il peut le faire. Donc vous voyez, c'est simplement qu'on est dans une démarche tellement différente de celle conçue quand on a édité les droits d'auteur, qu'on est aujourd'hui un peu gêné par rapport à ces licences qui organisent quelque chose de pas du tout imaginé à l'époque.
Donc, je voudrais introduire une nuance, enfin, ou un complément plutôt par rapport à ce que dit Mélanie quand elle présente l'auteur qui met son œuvre sous licence libre, copyleft, comme un auteur qui désire que son œuvre soit repris par d'autres, que son œuvre évolue. Je voudrais un petit peu développer cette idée de l'auteur qui désire que, parce que je voudrais le nuancer au sens où il me semble que c'est quelque chose, c'est une conscience de la création qui va plus loin que le désir individuel de dire j'aimerais bien que quelqu'un me fasse quelque chose avec mon œuvre. Enfin, personnellement, en tant qu'auteur, j'ai pas comme ça un désir particulier qu'on vienne reprendre mes œuvres là demain pour en faire quelque chose et pour me faire des jolies surprises. J'accepte cette possibilité. C'est plus de cet ordre-là. Je fais un petit peu plus que l'accepter. Je l'accueille. Et pourquoi je l'accepte et je l'accueille? Je reconnais à l'autre l'intelligence, le talent, la capacité éventuelle de le faire et je ne me place pas à part en disant c'est moi le créateur et les autres sont bons qu'à fermer leur leur bouche et à lire ou écouter ou regarder et ça c'est d'une part ça et puis surtout j'ai conscience que quand je crée en tant qu'auteur, en tant que créateur, ben, je suis pas grand chose dans l'espèce de grand bouillonnement dans lequel moi-même je suis prise. C'est-à-dire que moi aussi je crée à partir d'autres créations, même si je le fais pas forcément explicitement et matériellement en prenant l'œuvre de machin, etc. Mais je travaille jamais à partir de rien. La création ne se fait jamais ex nihilo comme ça. Elle se fait toujours à partir d'un ensemble d'idées, de configurations, d'images, de choses qui dans lesquelles on baigne. Et c'est en tant que agent qui baigne dans un bouillon de culture que
c'est l'inspiration.
Ça va plus loin que l'aspiration. On fait partie du matériau nous-mêmes. Nous-mêmes, on est le matériau de la culture et on baigne dans ce bain. Et baignant dans ce bain, on fait partie de la soupe. C'est ça que je veux dire. C'est que je suis le
crouton dans la soupe.
Même moins que ça, peut-être, la vermicelle dans la soupe. Et je suis aussi bien un élément qui danse dans la soupe et qui s'amuse dans la soupe qu'un élément qui sera mangé. C'est quelque chose qu'il faut
accepter. Et c'est en cela que le livre est passionnant parce qu'il a... Finalement, il témoigne d'une évolution de notre société par rapport à la création. Et peut-être que cette évolution, elle pourrait trouver une traduction juridique. Aujourd'hui, on est encore dans un schéma qui a été conçu le siècle dernier. Et voilà, et on est certainement dans une transition. Et c'est ça qui rend aussi compliqué les choses, parce qu'on parlait des DRM, etc., mais parce qu'aujourd'hui, voilà, on a des modes de communication, des modes de création, un partage comme jamais on avait connu avant grâce à des outils techniques incroyables. Et donc, on pense forcément différemment. On est moins dans notre individualité, on est plus porté vers, vers un échange avec les autres. Et alors, il y a soit une réaction de conservation et de protection, soit au contraire une réaction d'ouverture et de partage. Et voilà, on a en fait ces deux réactions qui sont effectivement opposées. Et donc la question, c'est comment, quelle orientation le droit va prendre ? Est-ce qu'il va réussir à concilier ça ? Est-ce que, voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas de... je pense que le débat est complètement ouvert et que les jurys sont assez désemparés par rapport à ça. Et c'est normal parce que finalement, le droit suit les évolutions de la société et qu'il faut observer ce qui se passe et essayer de garder un recul par rapport à ce qui est en train de se passer pour faire quelque chose qui tienne la route pour les années futures.
D'accord. Moi, j'avais une question, c'est pour... c'est une question d'auditeur. Sur le droit moral, donc je vais prendre un exemple de musicien non libre, c'est Jean-Jacques Goldman qui en 98 se fait reprendre une chanson qui s'appelle Pas toi par un boys band qui s'appelait les 3T, aujourd'hui défunt. J'ai lu lire des interviews comme quoi lui il était contre cette reprise, en même temps ils l'ont reprise, ils l'ont modifiée, c'est la New Jack je crois à l'époque, ça s'appelait comme ça. Finalement il a rien pu faire et ouais. La modification a eu lieu. Alors ma question, c'est quel a été son droit moral par rapport à ça ?
Alors je ne connais pas l'affaire en détail, je ne sais pas pourquoi il a pu rien faire.
Plus d'autres exemples comme ça, alors c'est là où je me posais la question sur la modification, qui finalement j'ai l'impression qu'elle est quand même autorisée, me trompe peut-être,
attention,
quoi qu'il arrive.
Oui, effectivement, la protection de l'intégrité de l'œuvre ne veut pas dire que l'œuvre est intangible de façon absolue.
C'est qu'on peut la modifier.
Il est possible de la modifier, l'auteur peut autoriser la modification. Ce qu'on a voulu, on a voulu le protéger, c'est contre les blancs-seings qu'il pourrait donner. C'est-à-dire signer un contrat en disant vous pouvez faire ce que vous voulez.
D'accord.
Et voilà. Et après, ne plus rien contrôler. Donc, on s'est, en fait, le législateur avait peur de la pression qui pouvait être exercée sur l'auteur. Mm-hmm. Et donc, lui laisse la possibilité, en fait, de faire un contrôle a posteriori de ce qui a été fait de l'adaptation.
Oui, parce
et
que
puis, on a des contrats dans lesquels l'auteur va dire vous allez adapter, voilà mes conditions, voilà quand même ce que je voudrais que vous conserviez dans l'esprit de mon œuvre, etc. Et puis, du coup, si jamais il y avait un litige, le juge va regarder par rapport aux intentions qu'avait faites l'auteur et puis par rapport aussi aux critiques que l'auteur va faire finalement au vu du résultat et si c'est légitime ou pas par rapport à la conception qu'il a de son œuvre. Tant dans l'esprit que matériellement. Donc voilà. Mais il y a toujours un élément de subjectivité dans tout ça. Donc après, c'est une histoire de mesure. Les juges vont apprécier si... Alors, il y a la fameuse affaire là, de la chanson « On va s'aimer ». Savoir s'il y avait... qui a été reprise dans une publicité... et savoir s'il y avait une violation du droit moral. Et il y avait l'argument, je crois que c'est la cour d'appel qui avait dit, il n'y a pas d'atteinte au droit moral, parce qu'ils avaient permis que le remploi de la chanson dans cette publicité, mais avaient trouvé que là, vraiment, ça dénaturait beaucoup leur chanson. Et le juge avait dit, finalement, c'est une chanson populaire, elle a été utilisée dans une publicité pour vendre de la nourriture populaire, donc ça reste dans le même esprit. J'avais trouvé ça assez gros, mais bon, voilà. Bon, je crois que ça a été cassé par la Cour de cassation. Bon, donc on voit que le juge essaye aussi avec ses propres référents.
Il me semble, Mélanie, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, il me semble qu'il y a un des critères d'appréciation qui est que la modification apportée est susceptible de porter atteinte à la réputation de l'auteur. Typiquement, on va prendre ton tableau de la Joconde pour lui ajouter une petite moustache et un brassard avec une croix gammée sur le bras. Là, tu peux aller voir un juge en disant, voilà, moi, j'ai pas envie que mon œuvre soit associée à ça, que mon nom soit associé à ça. Donc, cette modification-là, je fais jouer mon droit moral. Et il me semble que c'est un critère.
En fait, dans la Convention de Berne, le droit moral a été réduit justement à la réputation et à l'honneur de l'auteur, mais en droit français, il est plus large. La protection de l'intégrité, on ne réduit pas ça.
Donc, de ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, la licence
ne donne aucune garantie que l'auteur ne va pas changer d'avis et se retourner complètement.
Mais aujourd'hui, on a des licences qui permettent la modification sans contrôle de ce qui est fait. Quoi. C'est l'idée, c'est la démarche.
Mais le droit moral reste.
Mais voilà, le droit moral reste inaliénable, imprescriptible, perpétuel. Donc oui, il pourrait revenir là-dessus. Donc
J'aurais aimé revenir un petit instant sur le. Sur les histoires, enfin on est toujours en plein dedans, mais de fondement même du droit d'auteur. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces histoires de dissociation entre les droits moraux et les droits patrimoniaux est typique de notre droit d'auteur à la française, à l'européenne, si j'ose dire, et que dans le copyright, il n'y a pas du tout ces finesses-là. Dans le copyright anglo-saxon, ce que tu disais, Mélanie, il est tout à fait possible, en un contrat, de déposséder l'auteur de tout ce qu'il y a entre lui et son œuvre.
Donc il y a une façon de protéger par...
À des détails près quand même, parce que justement le droit à l'honneur et à la réputation
suffisent. Oui, par le biais de la protection.
Et puis pour les œuvres d'art plastique, d'art visuel, c'est-à-dire à moins de 200 exemplaires, le droit de repentir, etc. Enfin, il y a un droit moral renforcé un peu à la française qui est reconnu aux auteurs d'œuvres dites visuelles et qui sont définies comme des œuvres qui sont produites à moins de 200 exemplaires. C'est tous les œuvres qui ne relèvent pas de l'industrie.
Si c'est un truc de droit anglo-saxon, on voit des mentions copyright partout.
Ça n'existe pas en France.
C'est une convention internationale de dire copyright 2006 Radio Libertaire, tu mets ça en dessous de ton contenu, tout le monde internationalement saura que ça veut dire que c'est toi qui l'as fait. Ben justement là tu me tends une perche énorme parce que c'est là où je voulais un petit peu en venir. Permettre un tout petit retour en arrière quand on disait le copyleft, qui est donc ce concept inventé par Richard Stallman et Eben Moglen en 84 lorsqu'ils ont créé la Fondation pour le logiciel libre, et ce mécanisme de protection intégré dans la licence GPL, donc la première licence de logiciel libre autoprotectrice. Et c'est... Non.
Et pourquoi autoprotectrice?
Mais justement, alors, enfin, oui, j'aurais peut-être pas dû employer ce terme-là comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que outre le jeu de mots de copyleft, qui fait penser un petit peu à gauche d'auteur, et donc qui ferait penser à quelque chose qui serait en opposition avec le droit d'auteur, en opposition avec le copyright, au contraire de cela, le copyleft est basé sur sur le copyright. Le copyleft est basé sur le droit d'auteur qu'il renforce, quelque part, qu'il ressource. Parce que le copyleft est un moyen d'aller plus loin que le droit d'auteur, mais pas du tout d'aller dans l'autre direction.
J'aurais une interprétation un peu différente. C'est que je dirais que la licence s'intègre dans un système juridique qui prévoit une protection de la création. Donc ça peut être le copyright ou le droit d'auteur. Et donc effectivement, l'auteur a des droits. Après, ces droits, il les exerce. Et le copyleft et ces licences sont une façon d'exercer ce droit. Il ne fait pas plus que le droit. C'est l'exercice du droit d'auteur.
Il fait quelque chose qui n'était jusqu'à présent pas fait avec le droit d'auteur.
Qui n'était pas fait. Voilà. C'est une nouvelle forme d'exercice du droit d'auteur.
Exactement. Mais ce n'est pas l'inverse du droit d'auteur.
Mais il ne rajoute pas au droit d'auteur. On utilise les règles du droit d'auteur, on les exerce autrement. C'est-à-dire que l'auteur a un monopole sur sa création. Seul lui peut décider qu'il la transmet au public. Il peut décider les conditions de transmission au public, il peut décider de céder ou pas, autoriser ou pas l'usage de son œuvre. Et là, il le fait de façon originale par rapport à ce qui avait été fait antérieurement.
Il s'agit surtout de penser que quand l'auteur a un monopole, traditionnellement l'auteur a un monopole et il transfère son monopole à un éditeur ou à un producteur. Sauf qu'avec les licences copyleft, on sort du monopole, tout simplement. C'est-à-dire que il va transférer ses droits, donner des autorisations, mais à tout le monde.
Exercer ses droits.
Et sans donner de monopole à personne, aucune exclusivité. Et il y a pas moins de légitimité. Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, Mélanie, mais quelle est la légitimité du point de vue du droit moral à donner à un éditeur ou à un producteur le droit de faire, de lui donner un blanc-seing sur les modifications?
Et ça marche pas, ça,
quelle est la légitimité de faire ça plutôt que de le donner, que de donner cette autorisation à quiconque?
Si donner un blanc-seing, ces contrats ne voudraient rien.
Et
à
pourtant,
ce niveau-là. C'est,
par non. exemple, la chanson On va s'aimer a été.
Ils ont gagné en cassation.
Ils ont gagné en cassation, mais disons que le contrat était fait comme ça. C'est-à-dire que le contrat stipulait un droit de modification dans le.
Il y avait un droit d'adaptation et il se trouve que le résultat ne leur a pas plu et ils ont invoqué leur droit moral pour s'opposer à cette adaptation. Voilà. Quand on fait appel à un éditeur, on explique, on se met d'accord sur la collection, par exemple si c'est un ouvrage littéraire, quelle collection il sera publié, dans quelles conditions, qu'est-ce qui sera mentionné, etc. Et l'éditeur, au plus, peut corriger les coquilles, les fautes, si l'auteur ne l'a pas fait ou le faire faire. Mais en principe, s'il fait une coupure dans l'ouvrage, parce que d'un coup, il se trouve que 350 pages, c'est beaucoup, donc il va simplement publier 300 pages, eh bien là, il viole le droit moral de l'auteur et l'auteur pourrait agir contre lui. Donc il y a adaptation. Heureusement qu'on peut adapter des œuvres. Heureusement qu'on permet à l'auteur de le faire et qu'il s'engage quand même un petit peu dans cette déclaration de volonté, mais en même temps, il y a ce garde-fou du droit moral. Alors après, la question avec les licences libres, c'est savoir si cet auteur qu'on a voulu tellement protéger, qu'on en a fait presque un incapable à autoriser finalement des modifications larges, est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire un petit peu confiance et se dire que dans certaines circonstances, il pourrait permettre à quiconque de modifier l'œuvre et que ça serait intéressant. Seulement si on fait ça, on revient sur l'idée de l'inaliénabilité du droit moral. Et du coup, on ne protège plus les auteurs qui, dans certaines circonstances, font l'objet de pressions des éditeurs ou des exploitants et donc, du coup, autorisent n'importe quoi et finalement, on ne leur permet plus de protéger ce garde-fou du droit moral. Donc voilà. Alors, est-ce que le livre serait une niche, en fait, une exception à cette protection de principe sans ouvrir la boîte de Pandore, une niche dans laquelle on se dirait c'est intéressant de laisser l'auteur s'engager à permettre les modifications. Et à mon sens, c'est possible dans un cas, c'est quand on est dans un système de réciprocité. C'est-à-dire que l'auteur, effectivement, pour une fois, il va s'engager vraiment à permettre la modification de son œuvre sans se conserver la possibilité de venir finalement contester ces modifications. Donc vraiment, il s'engage fermement. Mais pourquoi ? Parce qu'il est dans un système complet de partage et qui sait que la personne qui va bénéficier de ses libertés va elle-même s'engager dans le même mouvement. Donc elle va, si elle modifie l'œuvre, eh bien elle-même va permettre ces mêmes libertés. Donc on est dans un système de totale réciprocité, de vrai partage, et qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a un partage. Et c'est un cas très particulier, hein, puisqu'on est vraiment dans le système.